Sérifage, l'émission série.
Bonjour les auditeurs, bienvenue dans Sérifage numéro 2. Et puis avec moi, comme d'habitude, il y aura Valentin à la technique qui
Bonjour
va intervenir. Qui va intervenir sur la série d'aujourd'hui, qui est la série. Allez, Valentin.
Attention, roulement de tambour, Star Trek.
Et ouais, Star Trek qui fête ses 50 ans. Et donc.
Ah, c'est pas plus vieux que ça, tiens, je me disais que ça.
Non, non, déjà, c'est déjà un demi-siècle, c'est balèze quand même. Hein.
Oui, bah oui.
Mais c'est vrai que, comme tu dis, le fait qu'on l'a vu décliner sous forme de différentes séries. Il y a eu des séquelles et des spin-offs et puis aussi des films. Il y a eu, on en parlera un petit peu plus tard, hein, il y a eu une flopée de films. Donc on a l'impression que oui, que cette série, pour certains, ils vont nous dire oui, bah non, c'est pas une vieille série. Et puis d'autres qui vont dire mais si, c'est trop, c'est hyper vieux et tout ça. Donc ça fait plusieurs générations, en effet, que les gens se fadent de Star Trek. Donc ce qu'on peut dire sur Star Trek, la catégorie, bien, c'est de la science-fiction. Plus précisément, ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu connais, le space opéra.
Bah, j'en fais un, donc je connais très bien.
Ah, d'accord.
Voilà.
Bah, parle-nous-en rapidement.
Le space opéra, justement, donc, c'est l'idée d'avoir plusieurs personnages qui évoluent dans des temps différents, dans des espaces différents, avec chacun un destin particulier, et puis qui va se croiser au fur et à mesure des histoires et tisser une toile assez grande. Donc, on peut nommer Star Wars. Puis, dans les récits de les bouquins, il y a Hyperion de Dan Simmons, Fondation d'Asimov. Voilà, ouais. Il y en a plein d'autres. Très intéressant.
Donc je pense que la série Star Trek ça te parle, quoi.
J'ai pas regardé mais oui, mais ça me parle, mais voilà.
Ok, c'est une saga qui a été créée par monsieur Gene Roddenberry, donc qui est une pointure, puisque c'est un gars qui a créé le propre univers de Star Trek. Et bon, quand on voit quelque chose qui dure comme ça, en général, c'est que derrière, on parlait tout à l'heure de Star Wars, hein, Spielberg, Lucas, c'est des gars qui ont créé leur univers, et hop, surtout Lucas, et qui a, voilà, maintenant, on a l'impression, plusieurs générations ont l'impression que c'est vrai, que ça existe, cet univers. Et donc, cette série, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des séquelles, des préquelles. Donc, pour en citer que c'était les principales, c'est Star Trek Génération. Puisque quand on a vu que les personnages commençaient à vieillir un petit peu, hop, on l'a remis au goût du jour. Deep Space Nine, qui se passe là plutôt sur une base, donc ça change un petit peu, mais toujours dans l'univers de Star Trek. Star Trek Voyager et Star Trek Enterprise. Donc, voilà, c'est les séquelles. Bon, cette série, elle est devenu culte au fur et à mesure, parce qu'au départ c'était pas ça accrochait bien aux États-Unis. En France, nous, la science-fiction, on en était resté à Jules Verne.
Ce qui était déjà pas mal, hein.
C'est ce qui est, c'est quand même, on a une pointure, hein, faut le dire. Mais tu parlais d'Asimov ou des gens comme ça. Pour les Français, fallait vraiment être spécialiste. Et en fait, Star Trek, ça a amené un petit peu aux gens à s'intéresser un petit peu à l'espace, et ce qui a ensuite conduit les générations suivantes à aller jusqu'à Star Wars et tout un tas de séries comme ça.
Et je crois que bien aussi que à l'origine, le space opéra, il y avait un autre nom, c'était même le soap opéra, parce qu'à l'époque, c'était un sous-genre qui était quelque chose pas très apprécié, c'était une sorte de caricature presque même.
Oui, tu as Flash Gordon, par exemple, voilà, ou des choses comme ça, c'est un petit peu une caricature, hein, parce qu'il y avait déjà la science-fiction des pulps ou des choses comme ça, oui. Ou... Donc là, oui, on commençait à être un petit peu plus sérieux. Bon, on reviendra à peu près quand on appelle sérieux, oui. Sérieux à l'époque, parce que c'est une série, on verra qu'il y a des petits défauts. Alors, la série originale est composée de 3 saisons qui se répartissent en 79 épisodes de 50 minutes. Donc, on en parlait la dernière fois. Bah oui, c'était un format qui était 50 minutes. Pour des sagas comme ça, c'était important. On a parlé d'Happy Days la dernière fois, où là, on a vu que c'était plutôt la demi-heure, c'était court. Là, on était dans la série où il y avait à développer une histoire un petit peu plus, pas de running gag ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment, on a une histoire qui dure pendant un épisode. Donc, on peut le voir, un épisode de Star Trek séparé des autres, quoi. Là, l'origine, elle était vue à l'écran dans les années 66-69, donc fin des années 70. Elle a été diffusée régulièrement depuis sur les différentes chaînes publiques, satellites, Et donc, les Français, comme je disais tout à l'heure, au départ, ont du mal à accrocher un petit peu à ce style-là. Et c'est pour ça que le succès est venu pratiquement après, avec les autres générations. Quand Star Wars est arrivé, tout ça, les gens ont eu envie à nouveau de voir du space opéra. Et là, c'est là que Star Trek a un peu continué à se développer et à envahir un petit peu les écrans. Parce que ça permettait justement, c'était inaccessible pour les chaînes d'avoir Star Wars. Bon, c'était plus facile de parler science-fiction avec des séries qui étaient, disons, connues par un petit peuple et que derrière, on a vu que la science-fiction, c'était. En plus, c'est quand même soft, hein, c'est pas. Les effets spéciaux étaient un peu cheap, et voilà. Mais bon, ça, c'est assez sympa. Alors, ça se passe au 23e siècle, hein, très important. Le vaisseau spatial, c'est l'Enterprise NCC 1701, plus exactement, et son fameux héros, le capitaine Kirk. Les séquelles de ces séries dont j'ai parlé tout à l'heure, elles se passeront au 24e siècle. Donc, on est sur 2 siècles, hein. Donc on verra si l'avenir sera comme il est dans Star Trek. Mais bon, il y a des fois, on n'espère pas, quoi. Alors, au 24e siècle, ils auront justement des nouveaux vaisseaux. Et ça, l'avantage de cette série, c'est qu'elle a su se renouveler avec les séquelles et les préquelles et utiliser les nouvelles techniques, les nouveaux effets spéciaux et puis évoluer avec le temps. Au départ, les costumes, ça fait un peu pyjama et compagnie. Après, ça ressemble plus à des uniformes modernes. Mais au départ, c'était assez marrant. Personnellement, moi, la première fois, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font en pyjama? J'étais gosse. Je dis, pourquoi ils sont toujours en pyjama? C'était le truc, quoi. Mais bon, au fur et à mesure, c'est vrai que après, quand on est rentré justement par la grande porte de Star Wars et aller à Star Trek, on dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient pris? Mais bon, faut se remettre dans le contexte. Années 60, on s'imaginait que les années 2000, voire plus, ça serait comme ça. Bon, on verra, on sera peut-être en pyjama hein,
Pourquoi
au
pas, hein?
23e siècle. Alors, la mission qu'a en général l'Enterprise, c'est de visiter pendant 5 ans, donc c'est un plan quinquennal, une partie de la planète pour sympathiser ou faire adhérer à leurs valeurs les extraterrestres. Et puis, c'est des missions d'exploration. Hein. Ça serait l'équivalent des Christophe Colomb ou
C'est
Magellan
ça,
de l'époque.
mission coloniale.
Voilà.
Ouais, je propose qu'on fasse une petite écoute.
Comme une
Hein?
petite, un petit, un petit son
Un petit
bien
son.
sympathique, et vous allez voir, là aussi, c'est kitsch.
Espace. Frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible.
J'espère que vous avez bien voyagé avec ce son de l'espace. Maintenant, on va parler de l'équipage, parce que l'équipage, c'est quand même un must du genre, comme on dirait. Alors, l'équipage est composé d'hommes et de femmes de différentes nationalités et races, avec certains personnages qui ont un rôle récurrent, dont on va parler plus spécialement. Alors, comme je disais tout à l'heure, les costumes pyjama, on reconnaît les personnages à leurs costumes et leurs couleurs. Donc, les bleus, c'est les boss. Les verts et marrons, c'est les intermédiaires. Et les rouges, alors c'est facile à reconnaître à Star Trek. Si vous voulez voir qui va mourir en allant sur une planète, eh ben vous regardez ceux qui sont habillés en rouge. Eux, on est sûr qu'ils vont y passer. Donc, c'est un code, ça va vous aider. Si vous découvrez la série, vous allez voir, vous allez vous marrer parce qu'au bout d'un moment, on comprend très, très rapidement que les 2 ou 3 Gus qui sont en rouge et qui accompagnent les héros, eux, ça ne va pas être drôle pour eux. Alors, à tout seigneur, tout honneur, as-tu dû parler du capitaine Kirk?
Eh bien, oui, évidemment.
Eh bien, le capitaine Kirk, c'est un gars qui est d'origine américaine, dans le film. Alors, c'est le chef du vaisseau Enterprise. Au fur et à mesure des séries, il montera en grade et il finira amiral. Mais au départ, bon, il commande son petit bateau, hein, comme un petit capitaine. Et ce qu'on peut dire sur lui, bah, c'est un petit peu le héros du film, le gars qui est prêt à batailler, qui trouve toujours des plans, qui renonce jamais. Un petit peu autoritaire de temps en temps. Le grand séducteur, alors c'est marrant parce que là, que ça soit des extraterrestres, des vénusiennes, à chaque coup, il nous fait le plan du Lovers, donc c'est assez marrant. D'ailleurs, ça lui coûte de temps en temps des belles déconvenues parce que certaines femmes ou extraterrestres femelles lui jouent de son attirance et c'est assez sympa de voir comment ce gars qui est hyper intelligent là-dedans, il se fait toujours avoir bêtement. Et heureusement, il y a ses copains de l'équipage, dont ça va nous permettre de faire la transition. Bon, il est joué par William Shatner, si c'est très important à dire. Bon, un acteur qu'on a pu voir dans la série Hooker et puis de temps en temps dans quelques films dont se tirait de la série. Et donc, celui qui sauve souvent de ses petits défauts, c'est un homme aussi que tu as dû entendre parler en musique ou n'importe quoi, parce que c'est un gars qui a permis de fantasmer sur son univers. C'est le fameux Captain
Spock.
Eh ouais. Et quelle particularité il a ?
Les oreilles pointues ?
Ouais. C'est pas un elfe, hein, c'est pas Gandalf, c'est pas ça fait pas partie de l'univers du Seigneur des Anneaux. Enfin, je dis Gandalf, c'est plutôt Elrond. Non, c'est un Vulcain. Mais il a la particularité d'être hybride, moitié Vulcain par son père et humain par sa mère. Et donc c'est quelqu'un, les Vulcains, c'est des gens qui sont vraiment cartésiens, pas de sentiments. Et de temps en temps, il a toujours cette dualité en lui, qui fait parfois justement, qui est intéressant parce que ça aide à aider le fameux Captain Kirk qui, lui, avec les femmes, tombe tout le temps dans le panneau. Donc avec Spock, lui... Il ne comprend pas l'amour, il ne comprend pas le rire, l'humour. Voilà. De temps en temps, il essaye de s'initier à ça, mais bon, c'est un petit peu la sagesse de l'équipage et le fidèle second. Le troisième personnage qui est indécrottable, c'est le fameux docteur McCoy. Donc lui, c'est le médecin de bord. Alors, pareil, alors lui, par contre, c'est le bon vivant et tout. Alors avec Spock, en général, c'est toujours des prises de bec, c'est assez marrant, surtout dans les dialogues français, parce que bon, les dialogues américains, à l'époque, étaient traduits plus ou moins bien. Des fois, il y a des traductions, ça vaut son pesant d'or, parce que c'est vraiment, en plus des répliques d'époque des années 60, maintenant, ça fait complètement désuet, donc c'est assez marrant à découvrir. Aussi, c'est à préciser que c'est un vieux copain du Captain Kirk, donc c'est pour ça qu'en général, ils arrivent à arrondir les angles entre les uns et les autres parce que leur amitié sauve de tout. Puis après, il y a Scotty, le chef mécanicien. Alors lui, c'est assez marrant dans cette série parce qu'on voit un appareil, l'Enterprise est immense et on a l'impression d'avoir le garagiste du coin. À chaque coup, on lui donne un délai de. Allez, il dit, il me faut au moins 3 heures. Bon, je vous donne 1 heure. Et le mec, c'est tout juste s'il n'a pas son tournevis pour réparer un moteur nucléaire ou un truc comme ça. On est au 23e siècle, mais bon. Donc, ça, c'est quand même assez sympa de voir un petit peu ce personnage un peu clé de la série. Et puis à côté, on aura bien sûr des personnages un petit peu secondaires comme le lieutenant Oura qui s'occupe un petit peu des transmissions avec la fameuse machine à téléporter. Alors l'enseigne Chekhov au départ, parce que je m'en mêle aussi, étant donné qu'eux aussi vont monter de grade, donc l'enseigne Chekhov qui est un russe avec tout vraiment la caricature du russe parfait de l'époque. Et puis, il y a aussi Monsieur Sulu, un japonais, qui est le côté zen et martial, qui est un peu la caution asiatique. Donc, un équipage très multirace. Ce qui, dans les années 60, était un petit peu extraordinaire parce que bon, il y avait encore à peu près. Hurrah, par exemple, est joué aussi par une américaine d'origine black. Donc, ça a changé à l'époque. On n'était pas loin encore des États ségrégationnistes et compagnie. Donc, il y avait une ouverture d'un côté dans cette Amérique un petit peu traditionnelle. Après. On pourrait parler peut-être des petites anecdotes.
Bah, volontiers, ouais.
Alors, je vais citer un petit peu des personnages qui ont été juste des petites apparitions. Parce que là, on a parlé des personnages qui sont pratiquement dans tous les épisodes. Alors, il y a Joan Collins, qui est l'héroïne de la série Dynasty. Donc, là, on parlait de soap opera. Elle, c'est vraiment comme Dallas, en compagnie. Donc, elle a réussi. Elle a été beaucoup plus connue par ça. Elle est apparue. Mais Michael Dunn, le nain infernal alias Dr. Loveless dans Les Mystères de l'Ouest. Eh bien, Michael Dunn apparaît aussi en guest star. Sally Kellerman, une actrice qu'on a pu voir entre autres dans le film et la série TV MASH, qui était sur la guerre de Corée et qui a fait pas mal aussi une bonne carrière d'actrice, et ben, c'est des gens qui ont commencé là-dedans. Alors, un petit peu fourre-tout, Kirsten Dunst, elle apparaît aussi dans Star Trek New Generation à un moment. Il y a deux ex-James Bond girls qui sont Famke Janssen et Terry Hatcher, qui apparaîtront aussi à une dans des épisodes de Star Trek New Generation. Stephen Hawking, l'astrophysicien, joue son propre rôle dans une des séries New Generation. Kevin Peter Hall, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'homme qui joue dans Predator. Le Predator, c'est Kevin Peter Hall.
D'accord.
Donc là, pour le reconnaître, c'est vrai que d'habitude, c'est assez dur à le reconnaître. Iggy Pop, bon, toi qui es musicos, Iggy Pop, c'est pas étonnant de voir Iggy Pop dans l'espace.
Bah oui, il devait traîner dans le coin, dans les studios.
Quoi, ouais, là, ouais. Je pense. Puis Iggy, comme il a tout testé, pourquoi pas l'espace, hein. Ensuite, Dwayne Johnson, alias The Rock, qu'on a pu voir dans, entre autres dans La Momie, dans Fast and Furious, et j'en passe, et des meilleurs. Il a fait sa petite apparition dans Star Trek Voyager aussi. Et alors là, comble du col, c'est royal. Abdullah II, le roi de Jordanie lui-même, est apparu dans un des épisodes séquelles de Star Trek.
D'accord.
Donc,
carrément. Quoi.
Voilà, c'est... tout est permis dans Star Trek. Là. Eh bien, je te propose d'écouter un petit extrait de la série que tu vas nous avoir recherché, puisque je rappelle qu'on est à deux à bosser sur cette émission et que la partie technique, c'est Valentin qui l'assure de main de maître. Et là, il va vous prouver que Star Trek, il peut y avoir des répliques assez amusantes.
La puissance de vol continue de tomber, capitaine.
Nous allons nous mettre en orbite, monsieur, temporairement.
Allez-y. Automation.
Puissance de suspension sur orbite pour 3 jours et environ 7 heures.
C'est plus qu'il nous en faut. Bon, communication. Envoyez un message à la planète Rigel qu'un des mineurs vient discuter de l'achat des cristaux. Vous le transférerez à bord de l'entreprise.
D'accord.
Je pense qu'il faut reconnaître que là vous avez été à la hauteur. Je veux parler uniquement sur le plan médical, bien sûr.
Pourquoi êtes-vous toujours aussi aimable ?
Je suis bien content que cette affaire soit finie. Ça vous avait un côté sentimental épuisant.
Épuisant pour nos vieux cœurs. Oh, je m'excuse. Dans votre cas, cela n'a pas d'importance.
Le fait que ma constitution intérieure puisse différer des vôtres, cher docteur, ne me paralyse pas l'intelligence.
Eh bien, c'est parti pour l'instant critique de la série. Donc là, on va essayer un petit peu de critiquer. Mais pas forcément négativement, la série. Eh bien, le côté humaniste de la série, qui mélange peuple et race à une époque où, comme je disais tout à l'heure, régnait plus ou moins la ségrégation raciale, et aussi la guerre froide. J'ai parlé de Pavel Tchekhov, c'est pas anodin que dans l'équipe, il y a un Russe.
Oui, oui.
Et quand on sait ce qui se passait à l'époque entre Khrouchtchev et Kennedy, et c'était un peu chaud les marrons chauds. Hein. Donc voilà, donc il y avait un esprit d'ouverture qui est souvent assez cher en général. Tu parlais d'Asimov ou des gens comme ça. Eux, ils sont un petit peu plus avancés. Ils voient Il y a toujours des guerres, ça, mais bon, ils sont toujours du côté... l'étranger n'est pas forcément l'ennemi. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire passer à travers cette saga. Des personnages bien définis avec des codes couleurs, comme je disais tout à l'heure. Donc, on sait facilement reconnaître qui est quoi. Parce que c'est vrai, quand on voit que... on aurait mis les mêmes uniformes pour tout le monde. Bon, les grades, tout le monde... mais là, en fait, il y a un code couleur, des langages. Ils parlent, les races parlent bien sûr tous en français ou en anglais, selon la version. Mais on a même inventé des langages comme le Klingon, par exemple... Il y a même des fans qui se réunissent dans les conventions qui s'appellent, on les appelle les Trekkies, et ils font des conventions où tout le monde est déguisé en personnage de Star Trek ou en alien ou en extraterrestre, et ça marche du feu de diable même 50 ans après. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment intergénérationnel. Un truc important aussi qui est défendu, c'est l'amitié et la solidarité dans l'équipage. En fait, on montre que l'union fait la force. Et ce n'est pas des héros individuels. Hein. À chaque coup, bah, c'est, un coup, ça va être Scotty qui va réussir à sauver tout le monde. Des fois, c'est Spock qui, grâce à son côté un petit peu... pas dématérialisé, mais enfin...
plus froid, quoi.
Froid, ouais, ouais. Pas cartésien du tout. Mmh. Par contre, bah, des fois, c'est l'héroïsme du Capitaine Kirk qui va sauver. McCoy, bah, on va avoir besoin du Tubby, c'est lui qui va sauver tout l'équipage. Enfin voilà, il y a cet état d'esprit, l'Enterprise, c'est ça. Quoi, c'est ça qui est intéressant. Alors, l'avantage, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on peut voir les épisodes séparément. Donc, parce que des fois, tout le monde n'a pas le... Et surtout à l'époque, hein, on n'avait pas le temps de se fader une saga. Maintenant, c'est courant. On se fait un petit, on dit tiens, je me fais une soirée machin ou un week-end machin. À l'époque, c'était plutôt bon. Bah, on a du boulot demain. Faut remettre le contexte. Hein, les Américains, même si c'est une société de loisirs, bah voilà.
Et puis surtout, il y avait pas Internet qui nous permettait de retrouver les épisodes. Voilà. C'est qu'on était devant notre télé et il y avait tel ou tel épisode qui passait. Donc,
voilà, fallait pas le louper, sinon on loupait. Donc.
C'est ça.
Aussi, alors ce que j'ai noté, moi, c'est dans les défauts, bah, c'est défauts et qualités, parce que c'est rigolo, c'est les fameux décors,
oui, oui,
bien
oui.
Kitsch,
le bon carton pâte,
les costumes, hein, comme je disais, les fameux pyjamas dont j'ai donné les couleurs, surtout les rouges et les bleus, là, c'est en plus un bleu vraiment bleu roi, là, une espèce de truc. Plus bon, les couleurs à l'époque à la télé, les colorisations aussi, il n'y avait pas les... Maintenant, on retoucherait ça. Des saisons et des épisodes, même si l'avantage, c'est que, comme je disais tout à l'heure, chaque épisode peut être vu différemment. Par contre, la qualité des épisodes, il y a des fois, c'était vraiment inégal, quoi. Des fois, on trouve ça fade, avec des chorégraphies qui ressemblent. On l'a vu et revu. Et je pense au combat, des fois, c'est vraiment... Il y a des rituels, voilà. Des clichés aussi très classiques, malheureusement. Bon, il y a une ouverture du côté des races, mais il y a aussi le Russe qui boit de la vodka, le Japonais qui va boire du saké. Voilà. Un côté ouverture, mais de l'autre côté, vu de l'œil américain, il n'y a pas que les Américains, je vous rassure, hein, tout le monde le fait. On a ces stéréotypes, hein, dans nos têtes. Et puis, bah, c'est des séries comme ça qui, des fois, les font perdurer un petit peu. Heureusement, bah, j'espère que ça fera bouger. Et puis, d'ailleurs, dans les nouvelles séries, même les anciens ennemis, les Klingons, font partie de l'équipage. Preuve qu'on a bougé un petit peu les frontières. Le thème musical de la série qu'on a eu l'occasion d'écouter aussi, qui est immédiatement reconnaissable, qui a été composé par Alexandre Courage. Rien qu'avec un nom comme ça, ça devait réussir. Et puis, bah, la cerise sur le gâteau, c'est quand même la fameuse machine à téléportation qui fait rêver et a fait rêver et fera rêver toujours des générations tant qu'elle ne sera pas faite. Imaginez, hop, téléportez-moi à 1000 km, on a envie d'aller en vacances, aller prendre un pot avec les copains au Brésil, au Japon ou dans l'Antarctique, hop là, donc ça c'est magique. Rien que pour ça, il faut regarder Star Trek au moins une fois. Bien, on arrive à la dernière partie, qui sont, si vous avez aimé ce genre de série, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, les 13 films de l'univers Star Trek, qui ont été tirés justement... en grande partie, l'inspiration, ça vient des personnages qu'on retrouve dans la série originale et les séries qui viendront après. On retrouve parfois les personnages originels de la première série, comme Capitaine Kirk, mais aussi et puis Spock, bien sûr. On a eu les mêmes acteurs qui l'ont joué. Après, on a eu la New Generation avec le français, parce qu'à un moment, il y a un français qui s'appelle Picard, le commandant Picard, qui est le capitaine de New Generation, qui lui prend la suite de Kirk. Et c'est l'acteur qui joue le professeur Xavier dans les X-Men, qui interprète le fameux capitaine Picard, donc on peut le voir. Et puis, ces dernières années, c'est J.J. Abrams, un très bon réalisateur qui a d'ailleurs aussi réalisé le dernier Star Wars, qui s'y est mis et qui a mis en scène les trois derniers volets en remettant des nouveaux personnages, c'est-à-dire il y a des nouveaux acteurs qui ont pris la place des originaux, c'est le moment de le dire. Et donc là, on a remis la série complètement à plat avec des nouveaux effets spéciaux, dernier cri. Voilà. Donc, si vous aimez l'univers, allez découvrir aussi ces films. Et puis, je vais les renommer, mais bien sûr, Star Trek, la nouvelle génération dont on vient de parler, qui se passe, lui, donc, au 24e siècle, avec Jean-Luc Picard, qui est dans l'équipage, comme capitaine, et aussi, il y a l'androïde Data, qui remplace un petit peu le capitaine Spock, mais là, c'est un androïde, donc froid, mais complètement froid, mais qui essaye de devenir humain, donc ça, c'est rigolo, il y a des bonnes scènes. Et un Klingon, alors les Klingons dans la première série et les Romuliens, c'est vraiment les salopards de l'espace. Et là, par contre, maintenant, la galaxie s'est arrangée, ils ont fait la paix. Et maintenant, il y a des Klingons et des Romuliens qui sont un petit peu moins méchants que dans les premiers épisodes. Star Trek Deep Space Nine, DS9 pour les habitués. Alors là, par contre, ça se passe, comme je disais, sur une base satellitaire. Alors c'est plutôt un jeu de diplomatie. Enfin, c'est l'aventure sur une base, quoi. Donc, avec des personnages tirés de Star Trek, mais complètement différents, avec ses propres héros, ses propres codes. Donc, à découvrir pour ceux qui aiment l'univers. Star Trek Voyageurs, là, c'est encore une série. Là, carrément, ils vont se balader à nouveau à travers l'espace. Donc, c'est assez ressemblant. Et puis, Star Trek Enterprise, qui est encore une série. Donc, pareil, c'est pas qu'une saison. Hein. Toutes ces séries que je viens de vous citer, c'est quand même pas mal d'épisodes, pas mal d'aventures différentes. Alors là, carrément, ils sont perdus près d'un trou noir et ils vont explorer des endroits. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller vous promener dans l'espace et puis de redécouvrir ou de découvrir Star Trek et tout son univers.
Merci beaucoup Alain pour cette présentation de cette série. On se revoit bientôt pour une nouvelle série. Qu'est-ce que tu nous prépares?
Là, on va complètement partir dans un autre endroit qui s'appelle le Vietnam et ça sera l'enfer du devoir, une série sur la guerre du Vietnam.
L'impossible. Super, et on se retrouve bientôt.